Lecture d'une histoire populaire des États-Unis, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Chapitre 2. Vers la ségrégation raciale. La solution au besoin de main-d'œuvre, l'esclavage des Noirs. Les premières années de l'esclavage. L'écrivain noir américain James Thomas Saunders Redding décrit ainsi l'arrivée du bateau en Amérique du Nord, un jour de 1619. Voile ferlée, pavillon pendant à sa poupe rebondie, il arriva avec la marée montante. C'était pour le moins, et à bien des points de vue, un étrange bateau. Un bateau effrayant, mystérieux. Était-ce un navire de commerce, un corsaire ou un bâtiment de guerre? Nul n'en savait rien. À travers le bastingage, on distinguait les gueules noires et béantes des canons. Son pavillon était hollandais et son équipage hétéroclite. Il fit escale à Jamestown, en Virginie. Le navire accosta, fit ses affaires et reprit rapidement la mer. Jamais sans doute, dans toute l'histoire moderne, un bateau n'avait transporté une aussi sinistre cargaison. À son bord, des esclaves, au nombre de 20. Il n'est pas, dans l'histoire, de pays où le racisme ait occupé une place plus importante, et sur une aussi longue durée, qu'aux États-Unis. Et la question de la discrimination raciale, telle que William Edward Burgat Dubois l'a posée, n'a rien perdu de sa pertinence. Savoir comment tout cela a commencé, et plus fondamentalement encore, se demander comment cela pourrait se passer, sont des questions qui dépassent le cadre purement historique. En bref, et pour reformuler autrement, noirs et blancs peuvent-ils vivre ensemble sans se haïr? Si tant est que l'histoire puisse aider à répondre à ces questions, l'étude des premières années de l'esclavage en Amérique du Nord, où l'on peut suivre l'arrivée des blancs d'abord, celle des noirs ensuite, nous fournit quelques éléments de compréhension. Certains historiens estiment que ces premiers noirs débarqués en Virginie étaient considérés comme des serviteurs, au même titre que les serviteurs blancs sous contrat importés d'Europe. Il est pourtant à peu près certain que, même inscrits dans la catégorie, assez familière aux Anglais, des serviteurs, ils n'étaient ni confondus avec les serviteurs blancs, ni traités de la même manière. Dans les faits, il s'agissait d'esclaves. Quoi qu'il en soit, l'esclave devint rapidement une véritable institution. La réalité du rapport au travail entre noirs et blancs au Nouveau Monde. Simultanément se développait ce racisme particulier aux multiples formes. Haine, mépris, compassion ou paternalisme. Qui allait marquer le statut inférieur des noirs en Amérique au cours des 350 années à venir. Causes et conditions de l'esclavage en Amérique du Nord. Tout dans l'expérience des premiers colons blancs les incitait à pratiquer l'esclavage des Noirs. Les Virginiens, de 1619, avaient désespérément besoin de main-d'œuvre afin d'accroître la production des denrées nécessaires à leur survie. On trouvait encore, parmi eux, des survivants de l'hiver 1609-1610, le temps de la famine, où ils moururent en si grand nombre qu'il ne resta bientôt plus que 60 des 500 colons du début. On trouve dans les archives de la Chambre des bourgeois de Virginie un document qui relate les 12 premières années de la colonie de Jamestown. La première implantation était le fait d'une centaine de personnes qui ne pouvaient compter, pour tout repas, que sur une maigre louche d'orge. Quand d'autres colons arrivèrent, les rations diminuèrent d'autant. La plupart d'entre eux vivaient dans des sortes d'abris creusés à même le sol, et durant l'hiver 1609-1610, connurent une période de famine si terrible que certains en vinrent à manger ces choses que la nature abhorre le plus, telles la chair et les excréments de leurs concitoyens ou des Indiens. Les corps étaient extraits de leurs tombes 3 jours seulement après leur inhumation et entièrement dévorés. D'autres, envieux du meilleur état de santé de ceux que la faim n'avait pas encore réduit à leur propre sort, menaçaient de les tuer et de les manger. L'un d'entre eux assassina sa femme tandis qu'elle dormait à ses côtés, la découpa en morceaux, qu'il sala ensuite et mangea jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, hormis la tête. Une pétition signée par une trentaine de colons dénonça le gouvernement de Sir Smith en ces termes. Nous affirmons que durant les 12 années du gouvernement de Sir Smith, la colonie a vécu globalement dans le plus grand dénuement et la plus grande nécessité, tout en étant soumise aux lois les plus cruelles et les plus sévères. Les rations à cette époque n'étaient que de 200 grammes de viande et 200 grammes de pois cassés par jour et par personne, moisis, pourris et couverts de toiles d'araignée et de vermine. Nourriture indigne même d'un animal et parfaitement répugnante pour un être humain, ce qui poussa nombre d'entre nous à fuir pour trouver refuge chez notre sauvage ennemi. Repris, ils étaient exécutés de diverses manières, pendus, fusillés ou roués de coups. Un autre, pour avoir dérobé quelques centaines de grammes de bouillie d'avoine, se fit enfoncer une pointe dans la langue et resta enchaîné à un arbre jusqu'à ce qu'il meure de faim. Les Virginiens avaient besoin de main-d'œuvre pour cultiver le maïs dont ils se nourrissaient et le tabac qu'ils exportaient. Ils venaient juste de découvrir le moyen de cultiver ce dernier et avaient expédié en 1619 le premier chargement à destination de l'Angleterre. Découvrant qu'ils pouvaient en tirer un profit élevé, comme il arrive souvent pour toute drogue procurant du plaisir, mais néanmoins moralement réprouvée, les planteurs faisaient fi de leurs principes religieux particulièrement austères, se gardèrent bien de se poser la moindre question sur un commerce aussi rentable. Contrairement à Christophe Colomb, les colons anglais n'étaient pas en mesure de contraindre les Indiens, trop nombreux à travailler pour eux. Les Virginiens, malgré les armes très efficaces qu'ils possédaient et qui leur permettaient de tuer un grand nombre d'Indiens, n'en redoutaient pas moins de terribles représailles. Ils se révélaient également incapables de les capturer pour les réduire en esclavage. Les Indiens étaient résistants, pleins de ressources, méfiants et, contrairement aux colons anglais, parfaitement à l'aise dans leur environnement forestier. Les serviteurs blancs n'étaient pas encore en nombre suffisant. De surcroît, n'étant pas esclaves, ils ne pouvaient être contraints à faire plus qu'honorer leur contrat de travail. Ce contrat leur offrait, en échange de leur force de travail pendant quelques années, la traversée et un nouveau départ au Nouveau Monde. Quant aux colons libres, il s'agissait pour la plupart d'anciens artisans, voire des rentiers, qui se montrèrent si peu enclins à travailler la terre que John Smith dut, dans les premières années, instaurer une sorte de loi martiale, organiser des équipes de travail et les envoyer de force dans les champs pour assurer leur propre subsistance. Une certaine amertume devant leur inaptitude à s'occuper d'eux-mêmes, comme devant la supériorité indienne en ce domaine, prédisposa peut-être les Virginiens à posséder des esclaves. Dans son livre American Slavery, American Freedom, Edmund Morgan fait allusion à ce phénomène. En tant que colon, vous saviez que votre technologie était supérieure à celle des Indiens. Vous saviez que vous étiez civilisé quand eux n'étaient que des sauvages. Mais votre supériorité dans le domaine technologique se révélait inapte à produire quoi que ce soit. Les Indiens, de leur côté, se moquaient de vos méthodes prétendues supérieures et tiraient de leur environnement de quoi vivre dans l'abondance tout en travaillant moins que vous. Enfin, lorsque vos propres concitoyens commencèrent à fuir pour aller vivre avec eux, c'en fut trop. Alors, il vous fallut tuer les Indiens, les torturer, incendier leurs villages, saccager leurs champs de maïs, afin de prouver votre supériorité, quels que soient vos échecs dans d'autres domaines. En outre, il vous fallut infliger le même traitement à ceux de vos concitoyens qui s'abandonnaient au mode de vie des sauvages. Mais le maïs ne poussait pas mieux pour autant. L'esclavage des Noirs était la solution. Il était d'ailleurs naturel de considérer les Noirs importés comme des esclaves, même si l'institution de l'esclavage n'allait être réglementée et légalisée que quelques décennies plus tard. En effet, en 1619, 1 million de Noirs avaient déjà été transportés d'Afrique vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes, dans les colonies portugaises et espagnoles en tant qu'esclaves. 50 ans avant Christophe Colomb, les Portugais avaient déjà fait venir 10 Africains noirs à Lisbonne. C'était le début de la traite. Il y avait donc 1 siècle que les Noirs africains faisaient figure d'esclaves. Dans ces conditions, il aurait été surprenant que ces 20 Noirs transportés de force à Jamestown en 1619 et vendus comme des marchandises à des colons avides de main-d'œuvre eussent été considérés autrement que comme des esclaves. Leur vulnérabilité même permis de les réduire plus facilement à l'état d'esclaves, les Indiens vivaient sur leurs terres et les Européens avaient implanté leur culture proprement européenne. En revanche, les Noirs arrachés aussi bien à leurs terres qu'à leur culture avaient été propulsés dans un environnement où leur héritage culturel, langue, habillement, coutumes et relations familiales fut graduellement gommé. Hormis les rares vestiges qu'ils parvinrent à préserver au prix d'une incroyable persévérance. Leur culture était-elle inférieure et de ce fait plus facile à détruire? Militairement inférieure, sans aucun doute, et particulièrement vulnérable, confrontée aux armes et aux navires des Blancs. Mais là s'arrête son infériorité, si ce n'est que l'on juge toujours inférieures les cultures différentes que la nôtre, surtout lorsqu'une telle culture se révèle à la fois utile et rentable. Pourtant, même d'un point de vue militaire, il faut rappeler que les Occidentaux, qui avaient en effet réussi à s'assurer des places fortes sur les côtes africaines, n'étaient pas parvenus à soumettre l'intérieur des terres et avaient dû pactiser avec les différents chefs locaux. Résistance à l'acculturation. À sa manière, la civilisation africaine était aussi avancée que la civilisation européenne. Elle était même, sous certains aspects, plus digne d'admiration. Mais elle présentait également des systèmes de privilèges hiérarchiques. On y commettait des atrocités et on n'hésitait pas, devant les sacrifices humains, de nature religieuse ou commerciale. Le continent comptait quelque 100 millions d'habitants et l'on y utilisait des outils en acier et des techniques agricoles sophistiquées. On y trouvait de grandes agglomérations urbaines et de remarquables réussites dans les domaines du tissage, de la céramique et de la sculpture. Les voyageurs européens du XVIe siècle furent très impressionnés par les royaumes de Tombouctou et du Mali, stables et organisés, alors que les États européens entamaient à peine leur mutation en nations modernes. En 1653, Ramusio, secrétaire des doges de Venise, s'adressait ainsi aux marchands italiens. Laissons-les aller et faire des affaires avec les rois de Tombouctou et du Mali, et il est certain qu'ils seront bien reçus et bien traités. Eux, leurs navires et leurs marchandises, ils s'y verront accorder tout ce qu'ils désirent. Aux alentours de 1602, un document hollandais concernant le royaume ouest-africain du Bénin décrit une ville qui paraît immense lorsque vous y entrez. Vous progressez dans une rue très large, non pavée, qui peut bien faire 7 ou 8 fois la largeur de Warmouth Street à Amsterdam. Dans cette ville, les maisons se présentent en bon ordre, les unes à côté des autres, bien alignées comme en Hollande. Vers 1680, les habitants de la côte guinéenne sont jugés par un voyageur fort civil et d'excellent tempérament. Il est aisé de négocier avec eux, désireux de répondre aux souhaits des Européens de la manière la plus civile. Ils semblent toujours prêts à rendre au double les présents qu'on leur fait. L'Afrique connaissait, à l'instar de l'Europe, un type de féodalisme fondé sur l'agriculture et organisé autour de la relation entre seigneurs et vassaux. Mais ce féodalisme africain ne devait rien, contrairement à celui de l'Europe, aux sociétés esclavagistes grecques et romaines, qui avaient supplanté l'ancien mode de vie tribal. En Afrique, l'organisation tribale était encore prééminente et certains de ses traits les plus remarquables persistaient, tel l'esprit de communauté et une plus grande mansuétude dans l'application des lois et des châtiments. En outre, comme les seigneurs ne possédaient pas l'armement dont bénéficiaient leurs pairs européens, ils ne pouvaient aussi aisément imposer leur autorité. Dans son livre « The African Slave Trade », Basil Davidson confronte les lois régissant le Congo du début du XVIe siècle à celles en vigueur en Angleterre et au Portugal. Dans ces pays européens, où la notion de propriété privée prenait une place de plus en plus importante, les voleurs étaient cruellement punis. En Angleterre, jusqu'en 1740, un enfant pouvait être pendu pour avoir dérobé un chiffon de coton. En revanche, l'idée de propriété privée paraissait totalement étrangère au Congo, où la vie communautaire subsistait. Les voleurs étaient généralement condamnés à payer une amende ou à subir divers degrés de servitude. Une personnalité congolaise, à qui l'on décrivait la législation portugaise, demanda ironiquement à son interlocuteur « Et comment punit-on au Portugal celui qui pose les pieds par terre ?» L'esclavage existait dans les États africains, et les Européens en prirent parfois prétexte pour justifier leur propre traite des esclaves. Cependant, comme le souligne Davidson, le statut des esclaves africains en était très proche de celui des serfs européens. Autrement dit, de l'écrasante majorité de la population européenne, si la condition des esclaves africains était très dure, ils conservaient néanmoins certains droits que les esclaves transportés en Amérique n'avaient plus. Ils étaient à 1000 lieues du bétail humain qu'on trouvait dans les cales des bateaux de la traite et sur les plantations américaines. Au royaume Ashanti, dans l'Ouest africain, un observateur remarquait qu'un esclave pouvait se marier, posséder des biens, voire posséder lui-même un esclave, prêter serment, être considéré comme un témoin digne de foi, et pour finir, hériter de son maître. Un esclave Ashanti devient 9 fois sur 10 membre adoptif de la famille, si bien qu'avec le temps, leurs descendants, intimement mêlés et parfois même mariés dans la parenté du maître, auront bien du mal à déterminer précisément leurs origines. Un marchand d'esclaves, John Newton, qui deviendra plus tard un des leaders anti-esclavagistes, écrivait au sujet du peuple qui vivait sur le territoire de l'actuelle Sierra Leone, « L'état d'esclaves chez ce peuple que nous jugeons sauvage et barbare est bien plus doux que dans nos colonies. En effet, on ne peut pas y pratiquer la culture intensive comme dans nos plantations des Indes occidentales, les Antilles. Et, en conséquence, le labeur excessif et continuel qui épuise nos esclaves n'y est pas nécessaire. D'autre part, aucun homme n'a le droit, dans ces contrées, de verser le sang d'un autre, fût-il esclave. » Nous n'avons certes pas l'intention de vanter les mérites de l'esclavage africain, mais il était d'une toute autre nature que celui qui sévissait sur les plantations et dans les mines américaines, où il durerait toute la vie, était psychologiquement écrasant, défaisait les liens familiaux et interdisait toute projection dans l'avenir. Il manquait à l'esclavage africain les deux fondements qui firent de l'esclavage américain le plus cruel de toute l'histoire de l'humanité. Le désir frénétique de profit illimité, caractéristique de l'agriculture capitaliste, et la réduction de l'esclave à l'état de moins qu'humain, par le biais de la haine raciale, fondée sur l'évidence incapable de la différence de couleur, le blanc étant le maître et le noir l'esclave. En fait, issu d'une culture fondée sur les coutumes tribales, les liens de parenté, la vie communautaire et les rituels traditionnels, les noirs se trouvèrent extrêmement vulnérables lorsqu'ils y furent arrachés. Capturés à l'intérieur du continent africain, bien souvent par des Noirs pris eux-mêmes dans le système de la traite, ils étaient ensuite vendus sur la côte puis parqués avec des individus de tribus différentes et parlant souvent des langages inconnus. Les conditions mêmes de cette capture et de ce commerce apparurent aux Africains noirs comme la confirmation écrasante de leur vulnérabilité face à une force supérieure. Ces marches en direction de la côte, parfois sur plus de 1 500 km, avec des captifs enchaînés par le cou et continuellement menacés de fouet et du fusil, étaient de véritables convois de la mort. 2 prisonniers sur 5 environ en mouraient. Une fois sur la côte, ils étaient enfermés dans des cages jusqu'à ce qu'on vienne les y chercher pour les vendre. À la fin du XVIIe siècle, un certain John Barbot évoque ces cages de la côte de l'or. À mesure que les Noirs de l'intérieur du pays arrivent à Fida, ils sont parqués dans des enclos ou emprisonnés. Près de la plage, et lorsque les Européens sont sur le point de les emmener, on les sort et on les conduit dans un vaste espace où le médecin du navire les examine sous toutes les coutures et dans les moindres détails. Hommes et femmes sont totalement nus. Ceux que l'on juge forts et valides sont mis à part, et leur poitrine est marquée au fer rouge des sceaux des différentes compagnies hollandaises, anglaises ou françaises. Les esclaves ainsi marqués retournent dans leurs enclos, où ils attendent parfois 10 à 15 jours avant d'embarquer. Ils étaient ensuite entassés sur les navires, dans des espaces à peine plus grands que des cercueils, et enchaînés les uns aux autres dans la fange humide et noire des cales, suffoquant dans l'odeur de leurs propres excréments. Certains documents de l'époque décrivent précisément ces conditions. Parfois, l'espace entre chaque pont ne dépassait pas 50 centimètres. Ainsi, ces êtres misérables ne pouvaient-ils pas se retourner, ou même se mettre sur le côté. Cet espace était bien souvent moins large que leurs épaules. Dans cet endroit, ils sont d'ordinaire enchaînés au pont par le cou et par les jambes. Et le sentiment de détresse et d'étouffement est alors tel que les nègres en deviennent fous. Durant l'un de ces voyages, les marins ayant entendu un vacarme assourdissant provenant des cales où les Noirs étaient enchaînés les uns aux autres, découvrirent les esclaves dans différents états de suffocation. Un grand nombre d'entre eux étaient déjà morts. D'autres avaient tué leurs camarades en tentant désespérément d'échapper à l'étouffement. Les esclaves sautaient souvent par-dessus bord. préférant se noyer plutôt que de supporter toutes ses souffrances. Selon un témoin, le pont aux esclaves était tellement couvert de sang et de mucosités diverses qu'on se serait cru dans un abattoir. Dans de telles conditions, un tiers environ des Noirs transportés outre-Atlantique mouraient. Mais le profit était tel, bien souvent le double de l'investissement de départ en un seul voyage, que le trafic demeurait rentable pour les négriers. Les Noirs continuèrent donc d'être entassés dans les cales, comme la plus vile des marchandises. Le commerce de la traite fut d'abord dominé par les Hollandais, puis par les Anglais. En 1795, Liverpool, qui comptait plus de 200 bateaux destinés au transport d'esclaves, représentait la moitié du commerce européen d'esclaves. Quelques Américains de la Nouvelle-Angleterre s'y mirent à leur tour, et en 1637, le premier transport américain d'esclaves, le Désir, quittait Marblehead. Sa soute était compartimentée en petites cellules de 60 cm sur 1,80 m, équipées de barres et de chaînes. Jusqu'à 1800, 10 à 15 millions d'esclaves ont été transportés aux Amériques, sans doute le tiers seulement des individus capturés en Afrique. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe. En 1610, un prêtre catholique, le père Sandoval, écrit à un responsable ecclésiastique européen afin de s'assurer que la capture, la transportation et l'esclavage des Africains noirs étaient bien légitimes au regard de la doctrine catholique. Le 12 mars 1610, le frère Louis Brandaon lui répondit « Votre révérence m'écrit qu'elle désire savoir si les nègres qui sont envoyés dans vos régions ont été légitimement capturés. » À cela, je réponds que votre révérence ne devrait avoir aucun scrupule sur ce point, car c'est une matière qui a déjà été étudiée par le Bureau de conscience de Lisbonne, dont les membres sont tout aussi savants que vertueux. Les évêques de Sao Tomé, du Cap-Vert et d'ici, Luando, tous également savants et vertueux, n'ont rien trouvé à y redire. Nous sommes nous-mêmes ici depuis 40 années et nous côtoyons de nombreux frères, très savants eux aussi, qui n'ont jamais considéré la traite comme un commerce illicite. Ainsi, nous-mêmes et les religieux du Brésil, achetons-nous ces esclaves pour notre service sans aucun scrupule. Avant tout cela, le besoin désespéré de main-d'œuvre des colons de Jamestown, l'impossibilité d'utiliser les Indiens, la difficulté d'utiliser les Blancs et la disponibilité des Noirs, toujours plus nombreux sur le marché si juteux de la chair humaine et si facile à contrôler. Tant les épreuves qu'ils avaient subies, quand elles ne les avaient pas tués, les avaient laissés dans un état d'impuissance aussi bien physique que psychique, rien de surprenant à ce que les Noirs fussent les victimes idéales de l'esclavage. En outre, dans ces conditions, même si certains Noirs peuvent avoir été effectivement considérés comme des serviteurs, étaient-ils traités sur un pied d'égalité avec les serviteurs blancs? Les comptes rendus de justice de la colonie de Virginie font état en 1630 d'un blanc nommé Hugh Davis qui fut condamné à être vigoureusement fouetté pour s'être abandonné à souiller son intégrité corporelle en couchant avec une noire. 10 ans plus tard, 6 serviteurs et un nègre de Monsieur Reynolds tentèrent de s'enfuir. Les blancs reçoivent une peine légère, mais Emmanuel, le nègre, est condamné à recevoir 30 coups de fouet, à être marqué d'un R au fer rouge sur la joue et à porter les fers pendant 1 an, ou plus si son maître le juge bon. Bien que l'esclavage ne soit alors ni réglementé ni même légal, on constate que dès le début, les serviteurs furent inscrits sur des listes différentes selon qu'ils étaient noirs ou blancs. Une loi de 1639 décrétait que tout individu, excepté s'il est nègre, recevra des armes et des munitions, probablement pour combattre les Indiens. Lorsque, en 1640, 3 serviteurs essayèrent de s'enfuir, on alourdit considérablement, en guise de châtiment, le service des 2 blancs du groupe. En revanche, la cour précisait que le 3e, un nègre du nom de John Punch, devrait servir son maître ou ses propriétaires ultérieurs pour toute la durée de sa vie. En 1640, à nouveau, Il est fait état d'une domestique noire qui mit au monde un enfant dont le père, blanc, était un certain Robert Sweet. La cour décida que ladite négresse serait attachée et fouettée au poteau de châtiment et que ledit Sweet devrait à l'aube faire publiquement repentance au temple de Saint James. Cette inégalité de traitement, ce mélange de mépris et d'oppression, de préjugés et de comportements que nous appelons racisme, peuvent-ils vraiment avoir été la conséquence d'une antipathie naturelle du blanc envers le noir? Si la question est d'importance, ce n'est pas uniquement pour des questions d'exactitude historique. En effet, toute mise en avant du cratère naturel du racisme minimise la responsabilité du système social. En revanche, si ce caractère naturel se révèle indémontrable, c'est que le racisme résulte de conditions spécifiques qu'il nous incombe de faire disparaître. Nous ne pouvons rien savoir de ce qu'aurait pu être le comportement réciproque des Noirs et des Blancs dans des conditions favorables, c'est-à-dire sans cette subordination historique, sans ces motivations financières qui entraînèrent l'exploitation et l'esclavage des Noirs. Sans cet instinct désespéré de survie qui imposait l'usage d'une main-d'œuvre forcée, toutes les données pour les Blancs comme pour les Noirs d'Amérique étaient incroyablement génératrices d'antagonisme et de violence. Dans de telles conditions, la moindre démonstration d'humanité entre individus de couleurs différentes peut être considérée comme la preuve de l'existence chez l'homme d'un besoin instinctif de s'accorder. Le racisme, un outil du maintien de l'ordre. On souligne parfois que, avant même l'année 1600, date à laquelle l'esclavage prit son essor et donc avant que les Africains n'en soient stigmatisés tant littéralement que symboliquement, la couleur noire était connotée négativement. Avant le XVIe siècle, en Angleterre, le mot « black » évoquait, selon l'Oxford English Dictionary, « crasseux, souillé, sale, infect », avoir de sombre ou criminel dessein, malfaisant. Se rapporte à ou évoque la mort, la morbidité, funeste, désastreux, sinistre, inique, atroce, affreusement mauvais. Marque le déshonneur, la honte, le châtiment, etc. À l'opposé, la poésie élisabéthaine usait souvent de la notion de blancheur pour signifier la beauté. Il est fort possible que, même en dehors des facteurs circonstanciels, la noirceur et l'obscurité, associées évidemment à la nuit et à l'inconnu, puissent évoquer de toute façon toutes ces notions négatives. Mais la présence physique d'un être humain différent est un fait puissant, et les conditions dans lesquelles s'inscrit cette présence déterminent de façon cruciale le processus par lequel un préjugé initial contre une couleur parmi tant d'autres, dissocié de tout rapport à une humanité quelconque, se mue en violence et en haine. En dépit de tous ces préjugés concernant la noirceur, comme en dépit de la suggestion spécifique des Noirs vis-à-vis des Blancs dans les Amériques du XVIIe siècle, il existe des preuves que, lorsque Blancs et Noirs se trouvaient confrontés à des problèmes communs, à un travail commun ou à un ennemi commun, en la personne de leur maître, ils se comportaient les uns envers les autres en égaux. Ainsi que le dit Kenneth Stamp, éminent commentateur de l'esclavage, les serviteurs noirs et blancs du XVIIe siècle étaient étonnamment peu soucieux de leurs évidentes différences physiques. Blancs et noirs travaillaient ensemble et fraternisaient. Le simple fait que l'on ait dû finalement édicter des lois interdisant de tels contacts démontre suffisamment ce fait. En 1661, une loi fut votée en Virginie qui stipulait que, au cas où un serviteur anglais s'enfuirait en compagnie d'un nègre, il devrait passer quelques années supplémentaires au service du maître de ce dernier. En 1691, la Virginie se déclare en faveur du bannissement de tout individu blanc, homme ou femme, qui, étant libre, se sera marié avec un nègre, un mulâtre ou un indien. Homme ou femme est libre ou non. Il y a un monde entre le sentiment d'étrangeté, voire de crainte, éprouvé devant la différence d'une couleur et la réduction pure et simple en esclavage de millions d'individus noirs, tels que cela eut lieu dans les Amériques. Le passage de l'un à l'autre ne peut s'expliquer simplement par une aversion naturelle. En revanche, on peut l'appréhender assez facilement comme le produit de conditions historiques. En fait, l'essor de l'esclavage accompagne celui du système des plantations. La cause en est donc aisément imputable à toute autre chose qu'à une quelconque répugnance raciale naturelle. Le nombre de colons blancs, libres ou serviteurs sous contrat, pour une durée de 2 à 7 ans, ne permettait pas de subvenir aux besoins en main-d'œuvre des plantations. Aux environs de 1700, la Virginie comptait 6000 esclaves, c'est-à-dire un douzième de sa population. En 1663, ils étaient 170 000, autrement dit près de la moitié. Révolte et répression des esclaves. Les Noirs étaient certes plus faciles à réduire en esclavage que les Blancs ou les Indiens, mais cela n'allait tout de même pas de soi. Dès le début, les Noirs et les Noires, au féminin, importés se soulevèrent. Mais cette résistance fut réprimée et l'esclavage finit par concerner 3 millions de Noirs dans le Sud. Pourtant, malgré des conditions de vie atroces, menacées de mutilation et de mort, les Afro-Américains n'ont jamais cessé, durant les 2 siècles qu'a duré l'esclavage en Amérique du Nord, de se rebeller. Mais les insurrections organisées furent peu nombreuses. Le plus souvent, ils exprimaient le refus de se soumettre en tentant de s'enfuir. Plus souvent encore, ils pratiquaient une sorte de sabotage, des grèves perlées ou bien quelque autre forme subtile de résistance qui affirmait, à leurs yeux et à ceux de leurs frères et sœurs du moins, leur dignité d'être humain. Cette résistance prenait ses racines en Afrique même. Un négrier fit remarquer que les Noirs étaient si peu disposés à quitter leur pays qu'ils sautent souvent des pirogues, des bateaux et des navires, préférant se noyer. Lorsque les tout premiers esclaves arrivèrent à Hispaniola en 1503, le gouverneur espagnol se plaignit devant la cour de justice espagnole que les nègres fugitifs prêchassent la désobéissance aux populations indiennes indigènes. Dans les années 1520-1530, Hispaniola, Porto Rico, Santa Marta et ce que l'on appelle de nos jours Panama connurent plusieurs révoltes d'esclaves. À la suite de ces révoltes, les autorités espagnoles mirent sur pied une milice chargée de pourchasser les esclaves en fuite. En Virginie, un décret de 1669 évoque l'obstination de nombreux d'entre eux. En 1680, l'Assemblée s'intéresse à certaines réunions d'esclaves qui avaient lieu sous prétexte de fêtes ou de combats organisés, qu'elle juge susceptible d'avoir de dangereux effets. En 1687, dans la péninsule du nord de la colonie, un complot fut éventé, au cours duquel les esclaves se proposaient de tuer tous les blancs de la région et de s'échapper pendant les funérailles qui s'ensuivraient. Gérald Mullin, spécialiste de la résistance des esclaves dans la Virginie du XVIIIe siècle, souligne dans son livre « Flight and Rebellion » que les sources disponibles sur l'esclavage dans cette colonie, les journaux et les rapports des plantations et des comtés, ainsi que les avis de recherche concernant les fugitifs publiés dans la presse, font le portrait des esclaves rebelles et de quelques autres. Les esclaves décrits étaient fainéants et voleurs. Ils feignaient d'être malades, détruisaient les récoltes, les réserves, les outils, et parfois même attaquaient et tuaient leurs surveillants. Ils organisaient des marchés noirs sur certains produits. Ces fugitifs étaient classés en différents types. Les fugueurs, qui généralement revenaient volontairement, les hors-la-loi, et les véritables fugitifs. Autrement dit, ceux qui partaient visiter les membres de leur famille se rendaient en ville en se faisant passer pour libres ou essayaient d'échapper totalement à l'esclavage, soit en embarquant sur les navires qui quittaient les colonies, soit en constituant des groupes dont les membres formaient des communautés villageoises sur la frontière. L'attitude de certains autres esclaves, rebelles, était plus radicale, assassins, incendiaires ou insurgés. On note que la frontière est la frontière de l'Ouest au-delà de laquelle s'étendaient les territoires laissés provisoirement aux Indiens. Les esclaves, récemment arrivés d'Afrique et restés attachés à leur culture communautaire d'origine, formaient généralement le gros de ceux qui tentaient de fonder des communautés de fugitifs dans les régions sauvages de la frontière. Ceux qui étaient nés en Amérique avaient plutôt tendance à tenter leur chance seuls et, profitant des métiers qu'ils avaient pu apprendre sur les plantations, tentaient de se faire passer pour des affranchis. Dans les archives coloniales anglaises, on trouve un rapport daté de 1729, adressé par le gouverneur de Virginie au ministère britannique du commerce, l'informant qu'un certain nombre d'esclaves, une quinzaine environ, avaient formé le dessein de s'enfuir de chez leur maître et de s'installer dans des endroits reculés des montagnes voisines. Il avait trouvé le moyen de se procurer des armes et des munitions, ainsi que des provisions. Ils avaient pris avec eux leurs vêtements, leur couchage et leurs outils de travail. Bien que cette tentative ait heureusement échoué, elle doit néanmoins nous encourager à prendre les mesures qui s'imposent. Pour certains propriétaires, l'esclavage était extrêmement rentable. James Madison confiait à l'un de ses hôtes anglais, juste après la Révolution américaine, qu'un esclave lui rapportait 257 $ quand les frais de son entretien ne s'élevaient qu'à 12 ou 13 $. Mais d'autres sons de cloche, à ce propos, se faisaient également entendre. London Carter, propriétaire d'esclaves, se plaignait dans ses mémoires que ses esclaves, qu'il n'ait pu ou pas voulu travailler, négligeaient tellement leur travail qu'ils commençaient à se demander s'il valait bien la peine de les conserver. Certains historiens, se fondant sur la rareté des révoltes organisées et sur le fait que les esclaves s'étaient maintenus pendant 2 siècles dans le Sud, évoquent une population d'esclaves que ces conditions de vie auraient rendues passives et soumises. La culture africaine des esclaves ayant été éradiquée, ils ne formaient plus, selon Stanley Elkins, qu'une société d'assistés maintenue dans la dépendance. Ou bien encore, comme le prétend l'historien Ulrich Phillips, leur spécificité raciale les inclinait à la soumission. Cependant, si l'on analyse attentivement le comportement des esclaves en général et leur mode de résistance quotidienne, qui allait de la non-coopération passive à la fuite, la réalité se révèle bien différente. En 1710, devant l'Assemblée de Virginie, le gouverneur Alexander Spotswood affirmait que la liberté possède un tel pouvoir de séduction qu'elle peut agir sur tous ceux qui se languissent dans les chaînes de l'esclavage et donc entraîner une insurrection qui pourrait avoir des conséquences effroyables. Aussi, j'estime qu'il est grand temps de s'en protéger en nous donnant non seulement les meilleurs moyens de nous défendre, mais également en votant une loi qui interdise tout rassemblement de ces nègres. En outre, étant donné la sévérité avec laquelle les fugitifs étaient punis, le simple fait que tant de Noirs aient tout de même tenté de s'enfuir suffit à prouver l'authenticité de leur sentiment de révolte. Tout au long des années 1700, on pouvait lire la chose suivante dans le code virginien de l'esclavage. Bien des esclaves s'enfuient et se terrent dans les marais, dans les bois et autres lieux obscurs, tuant des cochons et infligeant bien d'autres déboires aux habitants. Si l'esclave ne revient pas immédiatement, tout un chacun sera autorisé à le tuer et à le faire disparaître par tout moyen qu'il estimera approprié. Si l'esclave est arrêté, la cour du comté pourra légitimement châtier le dit esclave, par démembrement ou par tout autre procédé, qu'elle jugera approprié à la correction d'un tel esclave afin de passer à ses semblables l'envie de l'imiter. Milne a également étudié les avis de recherche publiés dans la presse entre 1731 et 1801, 1138 hommes et 141 femmes. L'une des principales motivations de ces évasions était de rejoindre des parents, ce qui tend à prouver que, malgré l'objectif évident du système esclavagiste de détruire les liens familiaux, en interdisant les mariages et en séparant le plus souvent les membres d'une même famille, les esclaves étaient prêts à affronter la mort et les mutilations pour retrouver leurs proches. Dans le Maryland, où les esclaves représentaient environ un tiers de la population totale en 1750, l'esclavage avait été inscrit dans la loi dès les années 1660, et des décrets concernant les châtiments réservés aux esclaves rebelles avaient été entérinés. On connaît quelques cas dans lesquels des femmes esclaves tuèrent leurs maîtres, soit en les empoisonnant, soit en incendiant leur domicile et les sécheries de tabac. Les châtiments allaient du fouet ou du marquage à l'exécution pure et simple. En 1721, 7 esclaves furent exécutés pour avoir tué leur maître. La peur de voir éclater des révoltes d'esclaves semblait être un des traits constants de la vie quotidienne sur les plantations. William Beard, un riche Virginien propriétaire d'esclaves, écrivait en 1736 « Nous avons déjà quelque 10 000 de ces descendants de Cham prêts à prendre les armes, et leur nombre s'accroît chaque jour, tant du fait des naissances que de leurs importations. Au cas où paraîtrait un homme décidé à commettre des actes désespérés, il pourrait, avec plus de réussite que Catilina, provoquer une révolte des esclaves, et teinter de sang nos rivières, aussi large soit-elle. » Les propriétaires esclavagistes développèrent, afin de préserver leurs réserves de main-d'œuvre et leur mode de vie, Un système aussi complexe qu'efficace, un système à la fois subtil et brutal, appliquant les stratégies dont usent à tout coup les classes socialement privilégiées, afin de faire en sorte que le pouvoir et la richesse demeurent aux mains de ceux qui les possèdent déjà. Ainsi que le remarque Kenneth Stamp, un maître avisé ne pouvait sérieusement croire que les nègres étaient par nature des esclaves. Il savait que les nègres, dès leur arrivée, devaient être couverts de chaînes, que chaque génération d'esclaves devait être soigneusement domptée. Ce n'était pas une tâche facile, car ceux que l'on enchaîne ne se soumettent jamais de bon gré. Plus encore, ils se soumettent rarement complètement. Dans la plupart des cas, la nécessité de veiller au regain était permanente, du moins tant que le grand âge n'avait pas réduit l'esclave à la plus complète vulnérabilité. La méthode était en même temps physique et psychologique. On enseignait la discipline aux esclaves. On leur inculquait, encore et encore, le sentiment de leur propre infériorité. Ils devaient savoir quelle était leur place. On leur apprenait, en détruisant leur personnalité, à considérer la noirceur de leur peau comme le signe même de leur subordination et à craindre le pouvoir du maître. Pour en arriver là, on imposait à l'esclave la discipline d'un travail harassant, la rupture systématique des liens familiaux, l'effet anesthésiant de la religion, qui pouvait parfois, néanmoins, de ravis même d'un propriétaire esclavagiste, causer d'énormes dégâts. La destruction du sentiment communautaire identitaire, en distinguant esclaves au champ et esclaves domestiques, plus privilégiés, et pour finir, le pouvoir de la loi et celui plus prosaïque des surveillants qui menaçaient perpétuellement du fouet, du fer rouge, de la mutilation et bien sûr de la mort. Le code de Virginie de 1705 prévoyait la mutilation. Le Maryland approuva en 1723 une loi proposant de couper les oreilles aux esclaves qui frapperaient des blancs. Et, pour des crimes plus sérieux, de recourir à la pendaison, à l'écartèlement et à l'exposition des cadavres en public. On note, Cham, fils de Noé, suite à la faute qu'il commit en regardant son père nu, son fils Canaan fut condamné par Noé à devenir l'esclave de ses oncles Sem et Japhet. Malgré cela, quelques révoltes eurent quand même lieu. Peu nombreuses, certes, mais suffisamment tout de même pour nourrir une crainte constante parmi les planteurs blancs. La première révolte d'envergure dans les colonies d'Amérique du Nord eut lieu dans la colonie de New York en 1712. Les esclaves y représentaient 10% de la population globale, la proportion la plus élevée parmi tous les États du Nord, dont les activités économiques ne demandaient pas un grand nombre d'esclaves agricoles. Quelques 25 élèves et deux Indiens incendièrent un bâtiment et tuèrent 9 blancs qui étaient accourus sur les lieux. Capturés par les soldats, ils furent jugés et, pour 21 d'entre eux, exécutés. Le rapport du gouverneur de l'État, adressé aux autorités anglaises, précise que certains ont été brûlés vifs, d'autres pendus. Un autre roué et un autre encore, traîné vivant, couvert de chaînes à travers toute la ville. Un autre agonisa sur le bûcher durant 8 à 10 heures, simplement pour servir d'avertissement aux autres esclaves. En 1720, un courrier adressé de Caroline du Sud à un destinataire londonien offre le récit suivant. À présent, je vous dirai comment, tout dernièrement, s'est tramé ici un complot de nègres dans le dessein d'assassiner tous les blancs du comté et de s'emparer de Charleston. Heureusement, il plut à Dieu que ce complot fût découvert et que nombre des comploteurs fussent capturés, dont quelques-uns ont été brûlés vifs, d'autres pendus et d'autres encore bannis. À peu près à la même époque, les esclaves noirs furent accusés de nombreux incendies qui éclatèrent à Boston et à New Haven. Un esclave fut exécuté à Boston pour cette raison, et le conseil de la ville décida que tout noir participant volontairement à un groupe de 2 individus ou plus serait passible du fouet. En 1739, à Stono, en Caroline du Sud, 20 esclaves se rebellèrent, tuant 2 surveillants d'entrepôt et volèrent des fusils et de la poudre avant de s'enfuir vers le sud, tuant et incendiant tout sur leur passage. Ce groupe fut rejoint par d'autres et finit par compter 80 esclaves qui, selon certains témoignages de l'époque, progressaient au son des tambours et criant « Liberté » et en brandissant des drapeaux. La milice les attrapa, près de 50 esclaves et 20 blancs trouvèrent la mort dans la bataille qui mit fin à la rébellion. Herbert Haftaker, qui a étudié en détail la résistance des esclaves en Amérique du Nord, pour la rédaction de son livre « American Negro Slave Revolts », dénombre près de 250 révoltes ou conspirations réunissant au moins 10 personnes. De temps à autre, des Blancs se trouvaient également impliqués dans ces sursauts de résistance des esclaves. Dès 1663, des serviteurs blancs sous contrat et des esclaves noirs du comté de Gloucester, en Virginie, avaient fomenté un complot afin de se rendre libres. Ils furent trahis et, pour certains, exécutés. Mullin rapporte, quant à lui, que les avis de la presse virginienne concernant les fugitifs avertissaient régulièrement les Blancs, mal avisés, contre les dangers d'accueillir les esclaves en fuite. Parfois, esclaves et hommes libres partaient ensemble ou commettaient ensemble des crimes. D'autres fois, c'étaient des esclaves de sexe masculin qui s'enfuyaient pour rejoindre des femmes blanches. Enfin, de temps en temps, des blancs, capitaines de navires ou bateliers, s'entendaient avec les fugitifs et allaient jusqu'à les enrôler dans leurs équipages. À New York, en 1741, on comptait 10 000 blancs et 2 000 esclaves noirs. L'hiver avait été rude et les pauvres, esclaves ou hommes libres, avaient affreusement souffert. Lorsque de mystérieux incendies éclatèrent, quelques blancs et certains esclaves furent accusés d'avoir conspiré. Après un procès où les fausses accusations s'ajoutaient aux aveux forcés, 4 blancs, 2 hommes et 2 femmes, furent exécutés. 18 esclaves furent pendus et 13 autres brûlés vifs. Une seule chose, dans les nouvelles colonies américaines, effrayait plus encore que les soulèvements de Noirs, la possibilité que certains blancs mécontents se joignent alors aux esclaves pour renverser l'ordre établi. En effet, au cours de cette première période de l'esclavage en particulier, on pouvait envisager une coopération avant que le racisme ne s'impose comme une opinion commune et alors que les serviteurs blancs sous contrat étaient souvent traités aussi durement que les esclaves. Selon Edmund Morgan, il apparaît que les deux groupes dominés se considéraient, à l'origine, comme soumis aux mêmes conditions terribles. Les serviteurs et les esclaves s'enfuyaient parfois ensemble. Il leur arrivait également de faire l'amour les uns avec les autres. Lors de la révolte de Bacon, l'un des derniers groupes à se rendre était composé de 80 noirs et de 20 serviteurs anglais. On note, voir chapitre 3, ces individus de vile et indigne condition. Toujours selon Morgan, certains maîtres, du moins à l'origine, percevaient les esclaves à peu près comme ils avaient toujours perçu les serviteurs, c'est-à-dire comme des individus paresseux, irresponsables, hypocrites, ingrats et malhonnêtes. En outre, si des hommes libres, au désespoir, avaient dû faire cause commune avec des esclaves également désespérés, les conséquences auraient pu dépasser en violence tout ce que Bacon lui-même avait pu commettre. Le Code noir. Aussi prit-on des mesures, à peu près à l'époque où l'Assemblée de Virginie promulguait les codes des esclaves avec leurs batteries de mesures disciplinaires et punitives. La classe dirigeante virginienne, ayant proclamé que tous les hommes blancs étaient supérieurs aux noirs, finit par offrir aux individus socialement inférieurs, mais blancs cependant, un certain nombre de privilèges qui leur avaient été jusque-là refusés. En 1705, une loi fut votée qui demandait aux maîtres de fournir aux serviteurs blancs, dont le contrat prenait fin, 10 boisseaux de céréales, 30 shillings et une arme, et aux femmes, 15 boisseaux de céréales et 40 shillings. En outre, les domestiques devenus libres se voyaient attribuer 20 hectares de terre. Puis Morgan conclut en précisant que lorsque le petit planteur se sentit moins opprimé par la fiscalité et qu'il commença à prospérer un peu, il devint également moins incontrôlable, moins dangereux et plus respectable. Il pouvait s'autoriser à considérer son voisin riche comme un puissant protecteur de leurs intérêts communs plutôt que comme un exploiteur. Nous voyons désormais, en Amérique, un réseau complexe de dispositions historiques prendre les Noirs au piège de l'esclavage. La détresse des colons affamés, la terrible vulnérabilité des Africains déportés, l'avidité irrépressible des négriers et des planteurs, la tentation des blancs pauvres d'accéder à un statut social supérieur, les mesures de contrôle pour empêcher l'évasion et la rébellion, et enfin le châtiment à la fois légal et social de toute collaboration entre noirs et blancs. Il faut insister sur le fait que les différents composants de ce réseau sont historiques et non naturels. Cela ne signifie pas que l'on puisse aisément les dénouer ou les déconstruire. Cela signifie seulement qu'il existe une possibilité pour que, dans des conditions historiques qui n'existent pas encore, les choses puissent se passer autrement. Une de ces conditions serait l'élimination de cette exploitation de classe qui a rendu les blancs pauvres si désespérément avides de la moindre amélioration de leur statut et qui a empêché cette coopération entre noirs et blancs, absolument nécessaire à un soulèvement commun en vue d'une reconstruction. Aux environs de 1700, la Chambre des bourgeois de Virginie annonçait que les serviteurs de Dieu dans ce pays appartiennent pour la plupart à la pire engeance que l'on puisse trouver en Europe. En outre, un si grand nombre d'Irlandais et d'individus originaires d'autres nations sont arrivés ici, parmi lesquels nombre d'anciens soldats ayant pris part aux guerres récentes, que, dans les conditions actuelles, il nous est à peine possible de les gouverner. S'il fallait leur confier des armes et qu'ils aient la possibilité de tenir des assemblées, nous aurions de bonnes raisons de craindre qu'ils ne se soulèvent contre nous. Il s'agit là de l'expression d'une certaine conscience de classe, ou, plus précisément, d'une peur de classe. On s'arrangea donc, dans la toute jeune Virginie, comme dans les autres colonies, pour calmer cette peur.